Tout d'abord, bonjour, je me présente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours?
Des portraits?
Oui, au Tchad, bon, j'ai fait...
Je fais des études pour devenir éducateur sportif, dont j'ai obtenu une bourse par la...
Des portraits?
Quand on a la chance d'avoir une scolarité...
À ce jour, j'ai continué mon travail, j'ai travaillé...
On pensait que c'était bien pour moi, sans savoir réellement ce
très
que
très tôt, ça m'a donné envie d'écrire.
Vous venez d'écouter Laurent Gabarou.
Nouradine Anne.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du regroupement familial.
Moi, j'ai mappé la foule de
Strasson. Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai fait deux podiums.
Clairement, oui, moi je pense que c'est une chance de pouvoir faire sa scolarité dans un environnement où il y a plus de mixité sociale.
Portrait. Quelle image aviez-vous de la France?
Mais l'image qu'on peut avoir...
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hiver?
Juste, merci beaucoup d'avoir donné la chance de pouvoir en parler.
Je trouve ça génial.
Merci.
Marmite FM vous propose d'écouter la deuxième des quatre parties consacrées au parcours de Catherine Papouin, atteinte de polyarthrite chronique évolutive. Dans la première émission, Catherine nous avait raconté son enfance et le déclenchement de sa maladie. Ici, elle continue à nous parler de sa jeunesse et de la suite de sa scolarité. Une interview de Nouradine Agne.
Pour continuer justement, parce que vous me parliez de votre... votre scolarité, après de votre rapport évidemment avec les autres enfants où voilà, fallait faire attention à vous. Ouais. Du coup, vous êtes une élève brillante et vous allez continuer comme ça votre scolarité.
Oui. Alors en fait, après 6e, 5e, je la passe dans ma petite ville, 2500 habitants.
Dans l'heure. Ouais.
Dans l'heure, au collège. Mais comme j'en veux toujours plus, je veux étudier le latin.
D'accord. Et pourquoi le latin?
Le latin parce que c'est le fondement de notre langue et que ça me plaît, le latin.
Donc c'était devenu un objectif, apprendre le latin.
Sauf que au collège de ma petite ville, il n'y a pas de latin. Donc il fallait que je suis allée à un collège qui est à 8 km. Et là, les trajets domicile-école ont commencé pour ma mère, où elle m'emmenait matin, midi et soir.
D'accord.
Elle faisait en fait 3 allers-retours par jour pour m'emmener à l'école. J'ai plein d'anecdotes dans ma vie hein, quand on y repense. Donc c'était une 504 Peugeot bleue. Et quand je sortais du collège et du lycée, j'aimais bien manger un éclair au chocolat.
Donc, c'était votre petit péché mignon.
Ouais. Et donc on s'arrêtait devant la boulangerie. La 504 bleue, ça bleu métallisé, attention, hein. S'arrêtait devant la boulangerie, pâtisserie. Ma mère descendait, achetait éclair et revenait dans la voiture. Et puis un jour, et ça c'était pratiquement tous les jours, puis un jour la pâtissière lui a dit « Dites donc, votre fille, elle ne serait pas un peu feignante ?»
Parce que de toute façon, c'est ce qu'elle se disait. C'est comme ça qu'elle a interprété le fait que votre mère sortait de la voiture pour aller chercher un éclair alors que vous ne sortiez pas de la voiture. Et qu'est-ce que votre mère a répondu?
Elle s'est effondrée. C'est difficile de répondre à des choses qui vous frappent au cœur comme ça.
Mmh. Oui, parce que j'ai envie de dire que c'est un peu de la...
Ah, c'était...
C'est un peu de l'ignorance, entre guillemets, parce que la personne ne sachant pas, elle a interprété ça.
Elle aurait pu se demander, mais pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est pas l'enfant qui vient, quoi. Mmh.
Donc c'est des épisodes comme ça.
Alors après, collège, lycée...
D'ailleurs, parenthèse, le fauteuil arrive quand dans votre vie?
Après.
C'est après,
ouais.
D'accord.
Après, université d'Amiens. Moi, j'ai rencontré au collège un prof d'histoire géo qui m'a passionné, qui m'a fait aimer cette matière. Et j'ai tout de suite décidé en fin de lycée de devenir prof d'histoire géo. Voilà, ça aussi c'était un objectif. Comme retourner en classe quand j'avais 10 ans. Donc je me suis inscrite à l'université d'Amiens. Alors pourquoi Amiens? En Normandie, il y a deux grandes universités, c'est Rouen et Caen. Mmh. Et en fait, je suis allée à Amiens parce que j'ai intégré un foyer de personnes handicapées.
Parce qu'Amiens, c'est loin de chez vous quand même.
Ouais, oui, mais à l'époque, je conduisais.
D'accord.
Parce que j'ai passé mon permis à 18 ans. J'ai commencé à apprendre à 17 ans et demi, histoire qu'à 18 ans et 3 jours, j'ai mon permis. Toujours ce besoin d'autonomie, cette volonté de passer outre les difficultés. Donc j'intègre le foyer, un foyer d'étudiants, d'étudiants handicapés. Donc, j'intègre aussi le monde du handicap à cette époque-là.
Avant, parce qu'avant, vous étiez toute seule, en fait.
Avant, j'étais malade. Et en rentrant dans ce foyer, je suis devenue handicapée. Et puis, moi, j'ai toujours été libre chez mes parents. Enfin, jamais été considérée comme... Mes parents ne me considéraient pas comme une personne handicapée. J'étais une enfant fragile, j'étais une enfant malade qu'il fallait soigner. Mais certainement pas une personne handicapée qu'on devait priver d'autonomie. Donc là, je me retrouve dans un foyer où il faut se coucher à 22 heures. Enfin, avec comme ça des limitations dans ma vie. Donc je ne supporte pas, je termine l'univers... Donc je quitte le foyer en cours d'année universitaire au mois de... à Pâques, où j'intègre une chambre pour handicapés aménagée sur le campus. Là, de nouveau, je reviens dans un milieu, entre guillemets, normal. Et puis après, je me dis, mais si je peux intégrer une chambre classique, pourquoi pas me rapprocher, en fait, de chez moi. Enfin, c'est très compliqué à cette époque-là, parce que je suis fiancée avec un mec qui est en fauteuil roulant, paraplégique, suite à un accident de voiture. Et puis ce mec-là me plaque du jour au lendemain. Je vais pas m'étendre sur les... Enfin bon, je fais une dépression. J'arrête de manger. Je remange parce que papa me fait des crêpes. Un jour. Et je décide de remanger. Mais je décide aussi parallèlement à ça.
Fin des années 70, c'est
ouais,
ça
c'est ouais, c'est 60... Non, oui, 76.
76.
Ouais. Mmh. Je décide de remanger, mais par contre, je décide aussi de changer ma vie, de quitter mes parents, de prendre encore plus d'autonomie. Cet été-là, j'ai fait un séjour de vacances à l'Association des Paralysés de France. Mmh. Je rencontre un garçon qui me commence à me parler d'une autre manière de vivre sa vie, et c'était vivre debout.
D'accord. C'est là que vous rencontrez l'association.
C'est là que je rencontre l'association avec Fabrice, qui est décédé maintenant, il y a très longtemps même. Et je me dis, bah, tiens, c'est intéressant quand même. On est à la fois dans un foyer protégé avec des auxiliaires de vie. Et puis aussi, on a son appartement, on est autonome, on peut faire ce qu'on veut. Et là, je m'inscris en fait à la fac de Nanterre pour poursuivre mes études.
Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Catherine Papouin est notre invitée sur Marmite FM 88.4, la trésorière de l'association Vivre Debout. Je le rappelle, c'est une association saint-quentinoise dont le but est l'amélioration de la vie des adultes grands handicapés physiques. Alors Catherine, votre parcours scolaire, bah, il va aboutir à un diplôme, parce que vous allez devenir ingénieure, c'est ça ?
Ah non, pas du tout.
Ah non ? Ah bah d'accord. Bah,
ah
bêtise,
ouais, c'est
alors.
Compliqué en fait, parce que j'ai plusieurs...
Vous avez plusieurs vies.
Ouais, du point de vue... comment on peut faire ? Je suis licenciée d'histoire-géographie en quittant la Falde de Rouen.
Ça, c'est votre passion, grâce à ce professeur
ouais, voilà.
qui vous a donné...
Donc quand on est... donc pour devenir professeur, sauf que quand on est handicapé et qu'on veut devenir professeur, on vous dit... Ah, non, ça, c'est pas possible.
On vous dit, il y a un problème.
Ouais, là, il y a un problème. Ce qui serait mieux pour vous, inspecteur d'académie de Rouen, ce qui serait mieux pour vous, texto dans le texte, hein, ce serait de venir secrétaire pédagogique. Bah non, monsieur. Désolé.
Je veux être enseignante.
Je veux être enseignante. Mmh. Ah, ben alors, attendez-vous à recevoir des coups de couteau dans le dos. De la part de qui, monsieur ? De vos collègues. Ah bon ? Et de l'administration de l'éducation nationale. Ah bon ? Ben écoutez, je suis blindée, alors allez-y. Bon, ben on va commencer par vous faire faire un test pour savoir si vous êtes apte à devenir professeur. Mmh. Donc on va vous demander d'enseigner dans un lycée à Verneuil-sur-Avre, pas très loin de chez mes parents. Donc j'arrive dans la cour du lycée, le proviseur me reçoit. Le bureau du provisoire était au rez-de-chaussée. Il m'a dit, bah, écoutez, on vous a donné trois classes de terminale au deuxième étage.
Oui, donc ça, c'était volontaire. On essayait de vous décourager hein, pour
en
pas
fait,
utiliser d'autres mots.
En fait, on essayait de me casser, ouais. Pour que je change d'avis, que je ne devienne pas prof. Donc, j'arrive au pied de l'escalier, pas d'ascenseur. Puis, je vois mes élèves, très grands, très braqués, un peu comme vous.
Mmh, je suis un peu baraqué. Ça fait rire mon technicien. Allez-y, continue.
Et qui me regardent et qui me disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Enfin bon, bref, je n'attendais pas à avoir un prof comme moi.
Parce que le handicap était déjà visible.
Je pouvais... Ah oui, là, à cette époque-là, oui. Mmh. En fait, je tenais à peine debout.
D'accord.
Je n'étais pas encore en fauteuil, mais j'avais seulement la position debout. Et je ne pouvais pas monter des marches, par exemple.
Donc c'était avec des béquilles que vous vous déplaciez ?
Non, j'ai jamais eu la force de... J'ai jamais pu utiliser des béquilles, parce que comme j'ai les poignets bloqués, c'était impossible. Non, j'étais en suspension, j'étais à peine debout. Et je ne pouvais pas, absolument pas, monter ces deux étages. Et en fait, ce sont mes élèves qui m'ont porté, matin, midi et soir, pour me faire rentrer dans la classe de cours.
Et parce qu'évidemment, vous leur avez expliqué.
Voilà, que j'étais bloquée là, que je ne pouvais rien faire. Ce que j'ai remarqué, c'est que de la fenêtre du bureau du proviseur, le voilage se levait et se rabaissait à chaque fois que j'avais un cours, parce qu'il vérifiait... En fait, il a très vite compris que mes élèves me portaient, ou me supportaient, enfin m'aidaient, et qu'il était scotché, quoi. Donc le fait de vouloir me casser, c'était raté. C'était raté.
Du coup, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé.
Vous étiez enseignante.
Après, voilà. Hein, mais après, ma maladie est devenue infernale. J'ai eu des... Parce que la polyarthrite évolue en poussée. C'est un petit peu comme les poussées de sclérose en plaques. Mmh. À un moment donné, ça va. Sauf qu'après une poussée, moi, je perds une articulation. Et là, c'est pour que là, c'était les cervicales qui étaient atteintes. Donc voilà, j'ai dû renoncer à être prof parce que j'étais trop atteinte à cette époque-là.
Et qu'est-ce que vous faites alors après une...
Alors là,
vous
oubliez, je suis déjà au foyer. Là, je suis déjà au foyer Vivre Debout à cette époque-là, enfin juste après. Je vis ma vie. En fait, ce que je fais à cette époque-là, c'est que je redeviens adolescente.
C'est-à-dire ?
Parce que j'avais pas eu d'adolescence. Mmh. L'adolescence, c'était dans les bouquins à travailler. J'ai pas eu d'adolescence en fait, et j'étais passée directement de l'enfance à l'âge adulte, à l'âge des responsabilités. Et là, quand je reviens à Vivre Debout avec tous mes copains handicapés qui eux testent l'autonomie et la liberté, parce que eux aussi ils ont eu des vies très très difficiles dans ces établissements pour personnes handicapées, 15e arrondissement de Paris, où ils étaient enfermés depuis leur plus tendre enfance. On est dans une période euphorique. On fait beaucoup de fêtes. On est entouré d'auxiliaires de vie qui ont le même âge que nous. C'est la musique, c'est les Beatles, c'est... Enfin, je veux dire, c'est la fête, quoi, tous les jours, tous les... Et après, bon, voilà, il y a Nanterre. Bon, Nanterre, c'est une fac très peu accessible pour les personnes handicapées, avec différents bâtiments où il faut aller d'un bâtiment à l'autre pour recevoir les cours. Donc, physiquement, très, très vite, ça a été impossible.
Oui, c'est un campus qui est très éclaté.
Ouais, en fait, très éclaté, de... voilà. Et donc, pour moi, physiquement, ça a été très, très vite impossible. Et puis, j'avais la tête ailleurs. Moi, ce que je voulais, c'était vivre les copains, les copines, enfin voilà, quoi, avoir une vie. Mais à un moment donné, je me suis dit, quand même, il faudrait peut-être faire quelque chose de ta vie. Donc, je me suis inscrite en cours de comptabilité pour devenir.
Par défaut.
Ouais, comme ça, pour
vous n'étiez pas passionnée de comptabilité.
Non, ouais. Pas du tout. D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné, d'ailleurs. Moi, je suis beaucoup plus littéraire, les chiffres. Mais bon, je suis quand même trésorière, maintenant. Donc, je travaille avec les chiffres, quand même. Mais je suis capable de le faire. Mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi.
Bah, j'en profite pour revenir sur votre expérience de professeur. Là.
Ouais.
Est-ce que vous diriez que c'est un peu la même chose aujourd'hui pour une personne qui aura un handicap et qui veut devenir enseignante Ça a un peu évolué ou vous diriez que...
Non, c'est toujours... Non, ça a évolué.
Ouais,
on a essuyé des plâtres, nous. Hein. Mmh. En fait, en décidant de ne pas céder à la facilité, la vie d'une personne handicapée, c'est une vie de lutte. Surtout à notre époque. En fait, on a tout mis en place. Hein. Mmh. La loi de 2005 n'a fait que... gravé dans le marbre, tout, et quand je dis nous, c'est plein de personnes handicapées. Hein. Je veux dire, on a fait partie d'un mouvement de libération, mais qui peut s'apparenter à 1968. Mmh. On a dit, on veut vivre comme tout le monde, on veut être inséré dans la vraie société, on veut participer à la vie de notre quartier, de l'école. C'était des affirmations. Par exemple, juste une anecdote pour vous expliquer où on en était à cette époque-là. À la fac de Rouen, il y avait un ascenseur pour monter dans les salles de cours. Cet ascenseur avait en fait une serrure. Cet ascenseur était fermé à clé. Il a fallu qu'on se bataille avec ma mère pour obtenir la clé. Parce que pourquoi elle veut prendre des cours d'histoire géo, quoi. Voilà. Donc c'était en fait un problème de faire évoluer les mentalités. Et les mentalités ont évolué vraiment dans le très bon sens. Moi, je suis très positive aujourd'hui. Hein. Très, très positive. Je veux dire, énormément de choses se sont améliorées. Bien sûr, il reste des choses à faire.
Tout n'est pas parfait encore.
Tout n'est pas parfait. Bien sûr que certains pays sont plus avancés que nous sur certains points. Mais quand même, on a fait du chemin depuis ces années-là, énormément de chemin. Et surtout, il y a eu en fait la loi de compensation de 2005, avec l'allocation de compensation qui a été mise en place par Jacques Chirac.
Permettre une meilleure autonomisation des...
En fait, c'est une loi qui nous permet, on commence à calculer nos besoins, et selon nos besoins, on met en face les soutiens. Les aides financières, ce qui a bouleversé notre vie. À ce moment-là, on s'est dit, waouh, on prend compte de mes besoins et on met les moyens financiers en face. Et c'est ça la vraie autonomie. C'est depuis cette loi qu'on a vraiment les moyens de vivre notre vie.
Puisque ce n'était pas le cas avant.
Non.
Vous avez rencontré le président de la République de l'époque alors. C'est ce que vous alliez me dire.
Ouais. Sarkozy aussi.
Ouais. Pour les sensibiliser à chaque fois sur...
Ah non.
Non.
Non. Non, non, justement, c'est les rencontrer dans la vraie vie.
D'accord.
Le militantisme, en fait, c'était avant. C'était quand j'avais... Après, ça a été de... En fait, ce sont des rencontres fortuites. Mais bien sûr, j'en ai mis une couche quand je les ai rencontrées. Mais je veux dire, c'était pas...
C'était pas pour ça que vous les avez rencontrées.
C'est la fin de cette deuxième partie d'émission consacrée à Catherine Papoin. En attendant les deux prochaines parties, vous pouvez déjà retrouver celle-ci en podcast, comme toutes les émissions de la radio, sur notre site internet marmitefm.canalblog.com. Merci à tous.
C'était Portrait. Marmite FM vous a proposé Portrait, des interviews menées par Nouradine Haye.